L'émission Prière inspirée vous est présentée par EMCI TV. Chaque jour, ensemble, soyez encouragés dans votre foi par la prière, la parole et la présence de Dieu. Bonjour, nous sommes mercredi. Heureux de te retrouver fidèle au Seigneur, marchant avec le Seigneur, par la foi, l'obéissance et la consécration. Prière inspirée, c'est une émission pour ceux qui veulent aller plus loin avec Dieu et plus loin dans la prière. Et je suis heureux de recevoir aussi régulièrement des témoignages d'hommes et de femmes qui sont dans leur vie de prière encouragés, fortifiés. Peut-être tu m'entends, tu m'écoutes aujourd'hui et peut-être toi, t'as jamais vraiment prié. Eh bien, c'est la prière, c'est cette communication, ce dialogue que tu peux avoir avec Dieu et avec le Sauveur Jésus-Christ. Il veut se manifester à toi. Et on a parlé ensemble du fait que hier, quand tu prie, Dieu t'entend. Il n'est pas sourd. Il t'entend et il veut exaucer tes prières. Alors adresse-toi à lui avec foi. Chaque mercredi ensemble, on parcourt un livre de la Bible. On a commencé par le livre de la Genèse et on est maintenant rendu dans le livre des Romains. Alors, l'épître aux Romains, c'est une épître qui a été écrite par Paul, l'apôtre Paul, il a dicté ça donc à Tertius comme secrétaire et scribe. On est à peu près en 57 après Jésus-Christ, probablement à Corinthe lors de son troisième voyage missionnaire, où il va ensuite aller à Rome pour la collecte. À ce moment-là, alors qu'il écrit aux chrétiens de Rome, il ne les a jamais encore vus. Ces chrétiens de Rome sont des hommes et des femmes, que ce soit du peuple juif, que ce soit également des païens qui se sont convertis au christianisme. Et Paul n'a jamais, à ce moment-là, donc visité cette église, et c'est pas lui non plus qui l'a fondée. Son but dans cette épître aux Romains, c'est de présenter l'évangile de manière concrète, complète, ordonnée, et montrer que le salut est par la foi en Jésus-Christ seul, indépendamment des œuvres de la loi. Alors la structure de l'épître, on commence avec une introduction, puis l'apôtre Paul va parler de l'universalité du péché, hein, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, la justification par la foi en Jésus-Christ en parlant d'Abraham, il va prendre l'exemple d'Abraham, puis il va partager sur la vie nouvelle en Christ, maintenant qu'on appartient à Jésus. Il parlera aussi de la place d'Israël et il va donner pas mal de conseils sur la vie chrétienne pratique. Et finalement, il va conclure plusieurs versets clés pour cet épître, celui que j'ai cité, hein, tous son péché sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains chapitre 5, étant donc justifiés par la foi, est-ce que tu sais à la suite du passage? Oui, nous avons la paix avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, et ce verset bien connu, car le salaire du péché, c'est la mort en effet, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternel en Jésus-Christ notre Seigneur, celui qu'on connaît bien, Romains chapitre 8. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, et le passage continue. Et je termine avec Romains chapitre 8, ce verset qu'on aime tant, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et partager avec toi donc quelques particularités de cet épître. Alors il y en a beaucoup, hein, mais c'est clairement l'épître la plus théologique et systématique de l'apôtre Paul. Ça va être le plus long traité théologique de Paul, 16 chapitres, avec une argumentation qu'on appelle serrée, qui est logique, qui est progressive, très structurée. Et 58 questions vont être répondues. En fait, c'est comme une forme de question-réponse. C'est un style d'écriture. 58 questions rhétoriques qui vont être répondues. Il y a peu de circonstances locales, donc peu d'événements, comme on peut le trouver par exemple chez les Corinthiens, chez les Galates. On parle pas vraiment de ce qui se passe là en ce moment dans la ville. C'est vraiment plus théologique et avec une exposition universelle et intemporelle. C'est encore pour nous aujourd'hui, bien sûr, de l'Évangile. Pourquoi cette forme? Probablement parce que Paul ne connaît pas encore l'Église qui est là à Rome, même si en esprit il aurait pu, bien sûr. Mais surtout, il veut se présenter théologiquement avant sa visite, préparer son premier voyage, son voyage missionnaire en Espagne. Et on va trouver dans sa théologie un résumé de sa vie avec Christ, de sa théologie après environ 25 ans de ministère. C'est un style qui est argumentatif, Il y a plus de 60 références directes de l'Ancien Testament qui sont faites et des objections aussi anticipées. Hein. Des gens auraient pu dire mais quoi, mais qui ? Alors par exemple, il va dire que dirons-nous donc ? Et donc ça, on le retrouve tout au long de cet épître. Il va partager donc, comme je l'ai dit, la justification par la foi, qui est le cœur de l'Évangile, le fait que tous sont coupables, et ça c'est le grand problème, mais une justification, la solution c'est la justice de Dieu révélée en Christ. Il parlera d'Abraham, qui est le père des croyants, et il va faire des parallèles entre le premier Adam et Christ. Hein. Adam c'était un seul homme, Christ c'est aussi un seul homme, Adam c'est la désobéissance, Christ c'est l'obéissance. Avec Adam, le péché entre dans le monde, mais avec Jésus, la justice est donnée au monde. Avec Adam, c'est la mort pour tous, mais avec Jésus, c'est la vie pour tous. Avec Adam, c'est la condamnation, mais avec Jésus, c'est la justification. Avec Adam, c'est le règne de la mort, mais avec celui de notre Sauveur, c'est le règne de la grâce. Et avec Adam, beaucoup meurent, mais avec Jésus, beaucoup sont justifiés. Et l'une des particularités, c'est la salutation ou les salutations personnelles de sa conclusion de son livre, chapitre 16, où il va citer 26 personnes. Et ça nous montre aussi que la vie avec le Seigneur et le ministère, c'est pas qu'une histoire de prêcher ou d'apporter la théologie, mais c'est avant tout des âmes, c'est des hommes, c'est des gens, c'est des personnes, c'est des frères et des sœurs, c'est des hommes et des femmes qu'on aime parce qu'ils font particulièrement partie de la famille de Dieu. Et dans cette liste, eh bien, il y a des femmes qui sont importantes. C'est aussi une des particularités. Il parle de Phébé, qui est diaconesse, et il parle de Priscille, bien sûr, et Aquilas, donc un couple, un collaborateur qui vont exposer leur tête pour l'apôtre Paul, des vrais serviteurs de Dieu, de Marie, qui a beaucoup travaillé pour vous. Il parle de Junias, c'est féminin. Il parle même de ses parents, qui sont remarquables parmi les apôtres, donc le ministère apostolique. Il parlera de Tryphose qui travaille pour le Seigneur, de Persite qui a beaucoup travaillé aussi pour le Seigneur, et de la mère de Rufus qui est aussi la mienne. Et dans cet épître, il y a un vocabulaire donc théologique clé. Il va répéter 34 fois, je te le dis pas en grec mais en français, la justice ou justification, 40 fois la foi, 24 fois la grâce, 74 fois il mentionnera la loi, 48 fois le péché, on peut parler du péché dans l'Église, oui, et 34 fois l'Esprit en parlant du Saint-Esprit. Alors voilà pour donc le résumé de l'Épître aux Romains que je t'encourage à lire. Elle n'est pas forcément facile, mais avec l'Esprit du Seigneur, eh bien, il te permettra de recevoir pour toi-même une bonne nourriture. On va ensemble adorer le Seigneur avant de laisser la place à notre invité, le pasteur Papicho, qui va nous encourager aujourd'hui donc dans cette émission.
Sur le trône, Jésus, le Saint, tu es digne de louange, d'honneur et gloire à celui sur le trône. Jésus, le Saint, tu es digne de louange, d'honneur et gloire. Digne est l'agneau crucifié.
toi, Seigneur. Nous te bénissons, notre rocher et notre Dieu. À toi la louange, à toi l'honneur, à toi la gloire, au nom de Jésus. Amen, amen. Gloire au Seigneur, je vais inviter encore une fois Marie à lire pour nous le passage de Philippiens, chapitre 1, verset 6.
Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ.
Alléluia. Cette phrase est vraiment remplie de beaucoup de messages dedans. Paul dit, c'est lui qui a commencé cette bonne œuvre en vous. Est-ce que j'ai envie de souligner le mot, de souligner bon, cette bonne œuvre. En d'autres termes, ce que l'œuvre que Dieu est en train de faire est une bonne œuvre. Tout ce que Dieu fait est bon. Des fois, nous comprenons toujours pas où est-ce que Dieu nous emmène, comment est-ce qu'il est en train de faire les choses. Mais j'ai envie de nous dire que ce que Dieu fait est très bon, est très bien. Et il a bien calculé, il a bien réfléchi avant de t'emmener sur ce chemin-là qu'il est en train de t'emmener. J'ai souvent l'habitude de dire, s'il m'était donné de prendre le volant de ma vie, de conduire ma vie pour aller vers le bonheur, je crois fermement je vais me tromper. Je vais m'égarer. Mais lui, il sait où est mon bonheur. Il sait où est-ce qu'il peut m'emmener. Vous savez, lorsque je lis l'histoire de Joseph dans la Bible, Joseph donne des traits de quelqu'un qui, je dirais, est presque, je dirais, maudit. Tout dans sa vie ne semble pas marcher. Un jour, il se réveille. Son père lui donne une tunique. Il n'a pas demandé, il n'a même pas prié pour ça. Mais à cause de ça, il y a eu des ennemis. Des gens qui vont le haïr. Des fois, il y a des choses où on prie, on demande à Dieu, il nous donne, mais il y a des choses où on n'a pas demandé, mais Dieu nous a donné. Et pourtant, c'est une des choses qui nous attire des fois la jalousie des uns. On n'a pas demandé, peut-être t'as pas demandé l'intelligence que tu as, t'as pas demandé la beauté que tu as, t'as pas demandé la taille que tu as, mais ça peut causer la jalousie de la part de certaines personnes. La Bible dit, toute grâce excellente nous vient d'en haut du Père de lumière, en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. C'est pas moi qui l'ai créé. Ça, c'est ce que j'ai envie de dire aux frères de Joseph, mais malheureusement, la Bible nous dit, ils ont haï Joseph. Et en le haïssant, ils vont le prendre, ils vont faire un complot pour le tuer. Et on le met dans un puits. Et un jour, on lui dit, sors. Il croyait peut-être qu'ils allaient rentrer à la maison, mais c'est le jour où on l'a vendu. On l'a vendu, c'est pas fini. On l'amène dans une maison où on le fait passer pour un violeur, comme quoi il a voulu violer la femme du patron. Et puis il quitte là, il va en prison. En prison, il arrive quand même à interpréter, à aider certaines personnes. Mais là encore, on l'oublie. Donc c'est comme une vie, une succession des problèmes et des problèmes. C'est comme s'il était maudit. Dans certains milieux, on dit toi certainement, tu es maudit. Tu dois avoir fait les choses qui font que tu puisses vivre tout ce que tu es en train de vivre. Or, c'était ce que Dieu est en train de faire pour l'emmener au trône. Le transport que Dieu a utilisé, c'était la haine de ses frères. C'était la prison, c'était le puits. C'était, n'est-ce pas, le mensonge sur lui. C'était la prison, c'était l'oubli. Et tout ça pour arriver où? Qu'il arrive au trône. Et nous disons souvent que Joseph était premier ministre en Égypte. Moi, j'ai envie de dire qu'il était vice-pharaon. Parce que le poste là n'existait pas. Et ce poste là a été créé juste pour lui. Alors, ça montre combien Dieu est bon, combien Dieu est merveilleux. Mais quand vous regardez le processus, le chemin par lequel il fait passer, ça semble être pas bien. Mais Dieu savait ce qu'il était en train de faire. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu es en train de pleurer, de souffrir, de traverser des moments difficiles. Tu ne comprends pas, Dieu t'emmène où? Je te dis, Dieu t'emmène vers une œuvre qui va, n'est-ce pas, glorifier son nom et qui va te faire, n'est-ce pas, réjouir dans sa présence. Pourquoi? Parce qu'il connaît lui seul le chemin. Il sait quoi faire. Il sait qui attirer vers toi. Et des fois, on a besoin des méchants. Vous savez, je me suis rendu compte que certaines personnes dans la vie, il est important qu'ils soient entourés des ennemis pour qu'ils puissent réussir. Si c'est seulement des personnes qui les aiment, ils vont pas réussir. Ils doivent être entourés des personnes qui peuvent leur dire, toi, ça ne marchera pas. Ça vous est arrivé, vous êtes en train de faire quelque chose et quelqu'un me dit, toi là, je pense pas que tu vas gagner. S'ils ne savaient pas dit, ça n'allait pas changer. Mais parce qu'ils ont dit, je leur donnerai pas l'occasion de voir mon échec et ça te pousse à travailler. Des fois, Dieu n'utilisera pas seulement les bonnes personnes. Il peut utiliser des traîtres comme Judas pour te trahir, je veux dire, pour te vendre, afin que tu puisses aller dans ta gloire. J'ai envie de dire à quelqu'un que Dieu est en train de faire une bonne œuvre. Dieu est en train de faire quelque chose de bien. Sois seulement calme et tu le verras. Oui, 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 ça semble être compliqué. C'est une bonne œuvre. Des fois, Dieu peut passer par des blessures pour faire des bonnes œuvres. La Bible dit, c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. C'est lui qui avait été blessé. Mais ces blessures-là sont devenues, n'est-ce pas, une bénédiction pour plusieurs. Et Dieu peut permettre aussi que tu puisses traverser des moments difficiles pour qu'à ton tour, tu deviennes une source de bénédiction pour les autres. En d'autres termes, ce que Dieu fait est bon. J'imagine lorsque le jour où Joseph est arrivé au trône et quand il commence à réaliser, il dit, mais si on m'avait pas oublié, où est-ce que je serais aujourd'hui? Peut-être s'il avait pas oublié et qu'il allait raconter à Pharaon, j'ai vu, on l'aurait libéré, le réflexe de Joseph aurait été de rentrer à la maison et il allait pas changer, il resterait le même. Et il essaie un peu de réfléchir, il dit, maintenant je comprends, Seigneur, pourquoi tu as permis qu'on puisse mentir sur moi? Et j'imagine un peu comment est-ce que la femme de Potiphar, pouvait se tenir devant Joseph. Mais c'était grâce à elle quand même que Joseph se retrouve là. C'est comme ça qu'à la fin il dira, vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Dieu seul sait ce qu'il faut mélanger pour, n'est-ce pas, emmener le bien, vous emmener là où il faut. C'est comme ça, bon, je suis pas vraiment, je prépare pas trop la nourriture, je fais pas beaucoup la nourriture, mais de temps en temps j'essaye. Il y a certaines choses que tu peux pas manger seul. Personne ne peut manger la farine seule. Mais quand on mélange la farine, les œufs, le sucre et le autre, ça nous donne un bon gâteau qu'on peut manger. Et c'est comme ça des fois Dieu, il sait ce qu'il faut faire, quel ingrédient il doit amener dans ta vie pour t'emmener là, il doit t'emmener afin d'accomplir. La Bible dit, c'est lui qui a commencé cette bonne œuvre. Cette œuvre-là est une bonne œuvre. Dieu sait comment est-ce qu'il est en train de l'amener. Oui, c'est compliqué, mais c'est une bonne œuvre. On se moque de toi, mais Dieu est en train de faire une bonne œuvre. Les gens rigolent, ne te donnent pas, n'est-ce pas, la chance, ne croient même pas que tu peux devenir quelqu'un dans la vie, mais c'est une bonne œuvre. Oh, Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Il le fait très bien. Oh, j'aime quand Dieu fait les choses, parce que quelqu'un aîné nous disait, Dieu est la seule personne qui peut nous emmener au nord en empruntant les chemins du sud. Il est Dieu et il peut faire des grandes choses. C'est cette anecdote, je me souviens de cette anecdote qu'on nous a racontée il y a des années. Un homme qui voulait comprendre la volonté de Dieu. Et Dieu lui dit, je vais t'envoyer un ange, comme ça il va te conduire. Et ils vont aller dans un royaume. Quand ils arrivent dans ce royaume, il y avait un roi, le roi les a bien accueillis. Il dit, nous on doit faire un festin et tout. Bon bref, je vous invite à venir dans cette fête. Et ils sont venus dans la fête. Et l'ange dira à cet homme-là, on doit voler la coupe du roi. Il dit, quoi? Il dit, on doit voler la coupe du roi. Ben, il n'a pas eu le temps de réfléchir. Ils ont volé la coupe du roi et se sont enfuis. Et le gars ne comprenait pas. Il dit, mais comment ça se fait que l'ange, mais il me fait ça? Et ils vont se retrouver dans un village, dans une maison, pardon. Il y avait un homme qui avait une maison, une petite maison qui était vraiment pauvre. Et cette personne les a bien accueillis, leur a donné à manger, etc. Et puis il dit, je vais aller puiser l'eau parce que j'ai pas de robinet, je vais aller puiser l'eau. Quand ils vont là-bas, l'ange dit, on doit détruire cette maison. Il dit, mais comment? Ils détruisent cette maison. Ils ont détruit la maison. Et puis ils ont fui. Et le gars n'était pas content de ce que l'ange faisait. Il dit, non, mais qu'est-ce que tu as fait? Et puis il dit, retournons là, on est parti. Quand ils arrivent dans le royaume, ils vont voir, il y avait un jugement. On a arrêté 3-4 personnes qu'on devait pendre. Pourquoi? Parce que ces personnes-là avaient empoisonné le roi dans la coupe qu'il devait boire. Donc quand ils ont volé, ils ont sauvé le roi. Et quand ils rentrent dans la maison de ce pauvre-là, ils trouvent qu'il y avait une grande maison très jolie. Il dit, je comprends pas, on a cassé sa petite maison, on a brûlé, et qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, en fait, quand il est venu, c'est vrai qu'il a pleuré. Mais il sait qu'il ne savait pas, quand il a voulu refaire, il a trouvé un trésor qui était sous cette maison. C'est avec ce trésor-là qu'il a bâti cette maison. Ah, il dit, ah, je vois comment Dieu fait. J'ai envie de dire, le mal que tu es en train de vivre n'est rien. Dieu fait toujours des bonnes choses. Il est en train de faire une bonne chose au travers de ce que tu es en train de traverser. Demain, quand tu regarderas en arrière, tu seras fier de ton parcours. Personnellement, quand je regarde en arrière mon parcours, je dis merci à Dieu. Heureusement, tu l'as fait en ce temps-ci. Heureusement, tu as attendu longtemps. Peut-être je comprenais pas quand il attendait. Je comprenais pas pourquoi est-ce que Dieu faisait cela. Des fois, j'ai m'étais découragé. Mais quand je regarde, je dis Seigneur, merci. Parce que si tu l'avais fait plus tôt, peut-être je ne serais plus dans la vie chrétienne. Si tu l'avais fait plus tôt, peut-être, je ne sais pas, je ne serais pas ce que je suis. Et je te dis merci parce que tu fais des bonnes choses. Dieu fait toujours des bonnes choses. Paul le dit, c'est lui qui a commencé cette bonne œuvre, la rendra parfaite. cette œuvre-là que Dieu est en train de faire dans ta famille, dans ton foyer, dans ton ministère, dans ton église, dans tes affaires, dans ton travail, est une bonne œuvre que tu es en train de faire. Dans pas longtemps, tu le verras. Tu verras la gloire de Dieu au travers de ce que tu as traversé et tu peux dire merci Seigneur, merci Seigneur. Et peut-être, ça te donnera une expérience aussi pour pouvoir aider les autres et leur dire ne vous inquiétez pas. Si Dieu fait ceci, il va terminer là. Parce que tu sais que Dieu fait, c'est faire des bonnes choses. J'ai envie qu'on puisse encore bénir notre Dieu, le rendre grâce parce qu'il ne fait jamais des mauvaises choses. Il peut permettre, n'est-ce pas, que nous puissions traverser des moments difficiles, mais c'est pour notre bien, parce que ce que Dieu fait est toujours bon, je dis, est toujours bon et restera bon dans nos vies. Oh Seigneur, nous te bénissons. Toi le divin potier, tu connais le plan mieux que nous tous. Nous ne voyons pas l'issue, mais toi tu vois l'issue. Seigneur, au travers des larmes, au travers des trahisons, au travers, Seigneur, mon Dieu de gloire, des abandons, Seigneur éternel, mon Dieu, toi, tu es là et tu es en train de faire des bonnes choses. Merci pour la vie de cet homme qui a été rejeté de son travail, qui a été éjecté de son travail, Seigneur, mon Dieu de gloire. C'est parce que tu as un plan mieux que celui-là. Seigneur, merci parce que tu as permis cela. Parce que si tu n'avais pas permis cela, il n'allait pas découvrir le chef d'entreprise qu'il est. Tu es un Dieu bon et tu fais des bonne chose. Mon âme te bénit. Mon âme te glorifie. Mon âme t'exalte, ô Dieu, parce que tu es tellement bon et tu es tellement fidèle. Tu es fidèle, Seigneur éternel, mon Dieu. Oui, ô Dieu, je reconnais ta bonté et tes œuvres sont merveilleuses, ô Dieu de gloire. Oui, qui pouvait comprendre que ces prisonniers qui partaient, ça allait revenir un jour quand même, un second dans le royaume de l'Égypte, ô Dieu. C'est juste parce que le Dieu bon avait sa vie entre ses mains. Mon âme te bénit, oh Dieu. Mon âme te bénit. Je te bénis, oh Dieu, pour la vie de mon frère et de ma sœur. On ne comprend toujours pas, il ne voit toujours pas clair, Seigneur mon Dieu de gloire. Mais ce qui est juste, ce qui est vrai, c'est que ton œuvre, eh bien, tu fais une bonne œuvre. Tu fais une bonne œuvre. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Oh, cette œuvre qui fera sortir la louange réelle et vraie, Seigneur éternel mon Dieu. Car tu es celui qui change les larmes en cris d'allégresse, ô Dieu de gloire. Tu changes le deuil en joie. Nous te bénissons, nous te glorifions. Alléluia, alléluia. Papa, papa, shadadadaba. Jesus Christ, kataraba, rababa, telebosa. Jesus kababand, rababa, baba. Alléluia.
Il est écrit garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Dieu te dit à toi qui passes par ce temps de patience. Le Seigneur est en train de faire une belle œuvre, tu l'as entendu. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur. Mon frère, ma sœur, garde ton cœur. Alléluia, garde ton cœur. Garde ton cœur. Seigneur, on veut garder notre cœur. On veut garder notre cœur dans ce qu'on ne comprend pas, là où on ne comprend pas, là où quelqu'un, Seigneur, s'est levé même contre toi et a dit, mais Seigneur, pourquoi ? On veut garder notre cœur, Seigneur, avoir un cœur qui est pur, limpide, comme du cristal. On veut, Seigneur, avoir un cœur qui est doux, un cœur qui est encore malléable, encore disposé, que nos cœurs soient disposés pour toi, que nos cœurs soient malléables pour toi, que on ait encore dans nos cœurs la douceur, la confiance. Alléluia. Dieu veut redonner la confiance à quelqu'un qui a perdu la confiance dans les gens. Tu dis, moi, j'ai plus confiance en personne. J'ai plus confiance dans les hommes. Tu es en train de te fermer à la bénédiction. Ne parle plus ainsi. Ne te ferme pas. Toi qui as été blessé par les hommes, tu dis, moi, j'ai plus confiance en personne. J'ai plus confiance en les hommes. Ou j'ai plus confiance dans les femmes. J'ai plus confiance en les autorités. Non, garde ton cœur. Relâche le pardon. Dis le Seigneur, je relâche. Je relâche le pardon, je relâche l'amertume, je relâche la colère, je relâche l'incompréhension. Je veux plus porter ce sac, je veux plus porter ce poids. Je le relâche, Seigneur. Je crois que tout ce que tu fais est bon et je crois que même si je ne le comprends pas, comment tu peux utiliser Pharaon pour glorifier ton nom? Comment tu peux utiliser des circonstances difficiles? Comment tu peux utiliser ces choses, ces personnes pour te glorifier? Père, je ne comprends pas, mais j'accepte que tu es Dieu. Dis-le, Seigneur, j'accepte que tu es Dieu. J'accepte que tu es plus intelligent. J'accepte que tu es plus sage que moi. J'accepte que tu fasses ce que tu veux. Je dis oui, Seigneur, je dis oui. Je dis oui. Je dis oui à ta volonté. Je dis oui à ta façon de faire. Ta façon de faire, c'est pas la mienne. Mais Seigneur, j'accepte ta façon de faire. Permets-moi de penser comme toi. Permets-moi de parler comme toi. Permets-moi de voir comme toi, Seigneur.
Dans mon trouble, j'élève ma voix pour te bénir. David pouvait dire, je bénirai Dieu en tout temps, en tout temps. C'est toi qui maîtrises le temps et les circonstances, ô Dieu. Tout ce qui arrive à mon frère, à ma sœur, Seigneur mon Dieu, tu es au courant et tu es au contrôle de tout. Et que tu es très sage, ô Dieu. La Bible parlant de ta sagesse, elle dit que tu as une sagesse infiniment variée, ô Dieu de gloire. Tu peux sortir le bon, le bien, de ce qui semble être moche devant les hommes, ô Dieu de gloire. Ce qui semble être fini, ô Dieu de gloire. Tu peux commencer une histoire extraordinaire. Merci pour ce que tu fais. Merci parce que ce que tu fais est bon. Tu es bon. Tu es bon. Et aussi vrai, aussi longtemps nos vies sont entre tes mains, ô Dieu, nous expérimentons les bonnes choses, ô Dieu de gloire. Le mal changé en bien, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Le mal changé en bien, Seigneur mon Dieu de gloire. Oui, Seigneur, je te bénis. Je te bénis. Je te bénis. Je te bénis. J'aimerais te dire, mon frère, toi qui ne comprends plus, tu crois que c'est fini, tu es au bout du rouleau. Mais laisse-moi te dire, commence à bénir Dieu, à louer Dieu, parce que ce qu'il fait est bon. Oui, il a vu ce complot. Il a vu comment est-ce que les gens t'ont fait éjecter de ton poste. Ils ont comploté et Dieu les a laissés faire. Parce qu'il sait, que de là sortira quelque chose de bon et de bien. Oui, oui, quelque chose de bon et de bien. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Merci.
Et Père, je prie pour ces blessures dont on a parlé, ces blessures qui deviennent pour quelqu'un quelque chose qui va les aider, qui va les encourager, qui va les impacter, qui va les guérir même parfois. Ben, on veut prier par rapport à ces blessures. J'aimerais que tu puisses penser dans ce temps de prière, mon frère, ma soeur, à ces blessures. Dans ton cœur, dans ta vie, il y a des blessures. Peut-être ces blessures, elles sont guéries. Ça peut être une cicatrice qui est là dans ta main. Et vraiment, il n'y a plus de problème, ça ne te cause plus de douleur. Et j'espère que c'est le cas. Si c'est pas le cas, certainement un besoin de pardonner, d'être restauré. Mais il y a des blessures. Il y a des blessures qui sont là, qui font partie de ta vie, que Dieu veut utiliser pour les autres. C'est, je crois, vraiment une parole prophétique qui a été donnée. Père, je prie que ces blessures puissent apporter la guérison, puissent être un témoignage, puissent relever l'autre. Que nous puissions, Père, par les blessures, que nous puissions par les meurtrissures, que nous puissions par les temps de souffrance par lesquels nous sommes passés, encourager celui qui passe par là. Relever celui qui passe par là. S'il te plaît, Seigneur, ne nous permets pas de nous taire quand on se retrouve devant quelqu'un qui est au même moment qu'on a vécu, dans la même circonstance qu'on a vécu. Ne nous permets pas de nous taire, s'il te plaît. Je prie pour quelqu'un, Père, qui était gravement malade. Cette personne qui a été pendant de nombreux mois malade et que tu as libéré, tu as guéri et qui se retrouve devant des malades et qui ne dit rien. Seigneur, s'il te plaît, j'appelle l'assurance, l'hardiesse, l'esprit de foi. Père, nous ne voulons pas oublier, mais on veut se remémorer combien tu es bon, combien tu as été fidèle. Oui, nous le déclarons. Tout ce que tu fais est parfait. Entendons, tout ce que tu fais est parfait, Seigneur. Gardons notre cœur, nous te glorifions, nous croyons en toi.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions et envoyez votre témoignage sur l'application Prière Inspirée et sur emcitv.com/je-témoigne.